Koh-Lanta, l'île des héros, c'est déjà terminé. Et pendant que Claude a perdu et que son public se retrouve complètement perdu, on a vu beaucoup, beaucoup de sel sur les réseaux. C'est Nawal qui a gagné. Bonjour à tous, je suis Damien et bienvenue dans le dernier épisode de la saison pour Autour du Feu, qui parlera de la finale de la dernière saison, l'île des héros. Avec moi, on a plusieurs chroniqueurs qui sont déjà venus cette saison. On a déjà, elle vient des Alpes-Maritimes, c'est Jules. Salut Jules.
Bonjour Damien et merci de m'avoir invité pour commenter cette finale.
C'est toujours un plaisir. Avec moi aussi, un Libanais qui a émigré en France pour apprendre la médecine, il est brillant, c'est Jade. Salut Jade.
Salut Damien. Écoute, très heureux d'être là pour le dernier épisode de la saison.
Ravi de t'accueillir aussi. Ensuite, on a tout aussi brillant, on a qui est déjà intervenu sur le podcast, c'est Juju. Salut Juju.
Salut Damien, salut à tous. Encore une fois, très content d'être là sur ADF pour débriefer cet épisode, cette finale de Koh-Lanta. Et très content aussi de l'invité de prestige qu'on a avec nous aujourd'hui.
Ah, tu m'enlèves les mots de la bouche. Contrairement à vendredi soir, on a eu une finale un petit peu longue avec un bêtisier qui n'est pas très très apprécié. Non, l'invité, ce ne sera pas Inès Reg, ce ne sera pas Martin Fourcade ni Gabriel Attal.
Heureusement.
Ce sera qui mieux qu'une ancienne vainqueur pour parler de la nouvelle vainqueur. C'est Maud, la Belge de la Garde des Chefs, qui est avec nous pour commenter aujourd'hui. Salut Maud.
Salut Damien, salut à tous.
Alors Maud, déjà, je voulais commencer par te poser une petite question. Toi, donc, j'imagine que tu as dû suivre cette saison. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du twist des héros, des personnages et tout? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
Ah, c'est très drôle parce qu'en fait, tu vois, en Belgique, il y a une revue qui me demandait de faire un débrief toutes les semaines. Et donc, c'est vrai que j'ai dû réfléchir et je n'ai pas pu louper un seul épisode. De toute façon, je ne l'aurais pas fait. Alors, que penser? Je vais te dire, honnêtement, bon, on rêve tous quand on a gagné ou quand on a fait un Koh-Lanta de revenir tellement l'aventure est magnifique. Maintenant, je me suis dit, tiens, si j'étais à ma première aventure, puisque j'ai eu la chance d'en avoir déjà vécu une, est-ce que j'aurais aimé être mêlée aux héros? Eh bien, je pense que non, dans un certain sens, parce que quand on fait une première aventure, j'ai aimé être vierge de toute expérience et de pouvoir essayer de faire la mienne. Et donc, je me suis dit, si j'avais tout de suite eu des héros, est-ce que la dynamique du jeu aurait été la même? Il y a toujours des leaders, en général, dans les groupes. Ça va de soi que si on a un Claude, qu'on a un Moussa, on s'incline d'abord. Et puis, naturellement, ils vont prendre le leadership. Donc, je pense que je n'aurais pas eu l'occasion de vivre mon aventure en découvrant tout simplement. Et puis, c'est des rois de la stratégie. Et vous savez que, heureusement que j'avais Cyril dans ce cas-là, ce qui était une stratégie en soi. Voilà.
c'est aussi ce qui t'a permis de gagner, je pense.
Ah ben, il faut s'allier avec les meilleures personnes. Hein. C'était tout à fait intéressé. Et Cyril est quelqu'un d'abominable. Je corrige, je vais me tuer. Non, Cyril, c'est quelqu'un de magnifique. C'est plus qu'un allié, c'est devenu un ami. Et c'est vrai que depuis le début, c'est une personne que je trouvais tellement lumineuse. Et il était nettement plus lumineux que moi en termes de stratégie. Donc, il m'a souvent dit, Maud, tu te tais, fais-moi confiance. Alors, je me suis un petit peu tue, mais comme vous le voyez, j'ai du mal à me taire.
C'est vrai que pour avoir croisé Cyril, il a fait le podcast plusieurs fois avec nous. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'adorable, d'ailleurs, qui nous a beaucoup aidé, même pour développer ce podcast. Donc, on l'embrasse et on le remercie, surtout parce que c'est lui qui nous a mis en relation avec toi. Donc, La revue belge pour laquelle tu as fait tes chroniques, c'est Ciné-Télé-Revue, c'est ça?
C'est Ciné-Télé-Revue et j'espère que tu n'as pas connu Ciné-Télé-Revue via Pure People parce que je vais les encastrer. Donc, je profite de ce podcast pour dire un milliard de pardon à ce qui est sorti à la fois pour Inès et pour Claude dans mon débrief, mon dernier, enfin c'était pas le débrief, c'était on m'avait interrogé sur qui resterait, etc. Et honnêtement, j'ai presque envie et j'espère que ma dernière exclue va sortir sur Ciné Télé Revue où je dis que finalement je regrette bien de ne pas avoir la possibilité pour certains journalistes de pouvoir lire ce qu'ils ont écrit après une interview orale. Et donc, moi, honnêtement, des gagnants de Koh-Lanta, je m'incline toujours. Et si Inès est arrivée si loin, si évidemment Claude a été si loin, et si Nawel ont été si loin, c'est qu'ils l'ont mérité ou qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, on recommencera un Koh-Lanta, ça peut aller tout à fait différemment. Et je le dis, j'ai eu de la chance de gagner. Mais j'insiste pour dire que franchement, c'est trois personnalités que j'aime beaucoup et que je respecte profondément. Donc, excusez-moi pour ceux qui sortent dans Pure People, je ne cautionne pas du tout. Voilà.
Bah, le message est passé, tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, je tiens à dire que on avait partagé ici un peu sur le Discord d'Autour du Feu plusieurs de tes chroniques qui ont été très très appréciées. Donc,
Ah, ben ça me rassure. Et franchement, si la dernière ne sort pas, je te l'envoie parce que je suis désolée de ce qui s'est passé, mais je suis très très heureuse d'apprendre que certaines chroniques sont passées sur Discord.
Donc, on va tout de suite passer à la première chronique de Juju, qui va nous parler un petit peu, nous faire un historique de l'épreuve des poteaux et de ce qu'elle évoque et de comment s'y préparer. Donc, Juju, c'est à toi.
Ouais, merci Damien. La semaine dernière, on avait eu droit à mon épreuve préférée de Koh-Lanta, à savoir l'orientation. Parce que, on en avait un petit peu parlé dans le podcast de la semaine dernière, du coup, c'est une épreuve qui est super complète. Elle requiert à la fois de l'endurance, donc c'est des capacités physiques, mais aussi des capacités intellectuelles. Il faut faire preuve de logique, de méthode pour ratisser les zones, ne pas perdre la tête, donc ça demande aussi du mental, pour garder son sang-froid, ne pas paniquer si les autres commencent à trouver avant toi, à revenir sur ta zone. Il y a de la stratégie de par le choix des spots au début, il y a du suspense, on voit l'évolution des recherches de chaque candidat, on se demande qui va trouver, quand, où, de quelle façon. C'est une épreuve hyper télévisuelle. À l'opposé de ça, l'épreuve de cette semaine, les mythiques, mais non moins chiants, poteaux de Koh-Lanta. Désolé, je dis chiant, parce que regarder trois personnes...
Je confirme.
Regarder trois personnes se tenir debout sur un poteau au-dessus d'un mètre cinquante d'eau pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça me fait pas plus rêver que ça.
On personnellement, préfère un poteau de
plongeon. C'est ça, ça serait peut-être mieux. Si cette épreuve, à mon avis, est rentrée à ce point dans l'imaginaire collectif, dans la légende de Koh-Lanta, c'est plus de façon symbolique, en fait, pour ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, c'est l'aboutissement d'une aventure faite de haut et de bas, qui s'achève dans la sobriété la plus totale. Il n'y a rien de plus basique, en fait, quand on y pense que cette épreuve d'équilibre, de patience, où c'est le dernier debout qui l'emporte. Et tout le monde peut reproduire les poteaux dans son jardin. C'est d'une simplicité désarmante. Et au-delà de ça, cette épreuve représente l'abnégation, le dépassement de soi. Comme le dit Nawel dans l'épisode de vendredi, pas mal, mais tu te dis, tu peux tenir encore un peu, encore un peu, encore un peu. Et c'est ça, en fait, gagner les poteaux, c'est aller au bout du bout de soi-même après des semaines qui t'ont déjà amené à tes limites, voire au-delà. C'est cette symbolique-là qui fait, à mon avis, que les poteaux sont aussi mythiques alors que l'épreuve en soi n'est pas dingue à regarder. Et d'ailleurs, je voulais profiter que Maud soit avec nous aujourd'hui pour faire un parallèle avec la saison précédente de La Guerre des Chefs où la production a émis les poteaux comme première épreuve avec les 21 candidats. Et cette épreuve-là s'était terminée en un peu plus d'une heure, si je me souviens bien, alors qu'on aurait pu penser... que des candidats qui ne sont pas encore entamés par la faim et par la fatigue pourraient tenir bien plus longtemps que des candidats en bout de parcours, à bout de force, au bout de 30 ou 40 jours d'aventure. Non, ça avait duré une heure, et pour moi, c'est une preuve supplémentaire que la seule valeur des poteaux, c'est le mythe qui les entoure, du fait que ce soit la traditionnelle épreuve finale. Donc on ne vise pas les poteaux. Il y a beaucoup de candidats qui disent dans leur présentation « Mon rêve, c'est d'être sur les poteaux ». Non. Ton rêve, c'est pas d'être debout sur un poteau, ton rêve, c'est d'être à la fin du jeu, c'est le fait d'arriver jusqu'au bout et de se dépasser une dernière fois à cette occasion. Et il faut savoir que dans la première saison de Koh-Lanta, on n'avait pas cette épreuve des poteaux. Je crois qu'on en avait déjà parlé. L'épreuve finale, c'était la main sur l'idole. Les trois derniers devaient toucher un totem, je crois, et le dernier à retirer sa main remportait l'épreuve. Et ça avait duré 9h30 à l'époque. Donc la production avait décidé pour la saison 2 de changer l'épreuve finale et de reprendre une épreuve tirée de Survivor, l'émission américaine, donc l'épreuve des poteaux. Le principe, c'est à peu près le même quand même, c'est une épreuve d'endurance, de volonté, où tu rajoutes une pincée d'équilibre pour diminuer le temps de l'épreuve. Ça favorise de fait les gens à l'aise en équilibre, qui sont plutôt des profils plutôt petit avec un centre de gravité bas, ou du moins on va dire que ça désavantage les grands et surtout ceux qui ont des grands pieds, parce que la surface des poteaux se réduit au fur et à mesure de l'épreuve. Mais surtout, c'est une épreuve de concentration et de volonté. Et comme Claude le dit bien, la moindre déconcentration d'une fraction de seconde, et c'est mort. Donc voilà, pour moi, ça ne doit franchement pas être une épreuve fun à jouer. Je ne sais pas ce que t'en penses, Maud, toi qui l'as vécu, et même qui l'as vécu deux fois. Comment tu t'es senti sur ton poteau, qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là, et comment on se force en fait à tenir?
Alors, je vais te répondre, j'ai justement eu la chance de le faire deux fois. Je vais peut-être t'étonner, mais je vais presque dire la malchance. Alors, vous allez avoir un petit... une petite nouvelle ou avoir le plaisir d'entendre exactement ce qui s'est passé et qui peut être un peu un scoop. C'est-à-dire que quand j'ai commencé les poteaux, effectivement, on commence à 21. En termes de concentration et d'énergie, évidemment qu'on a de l'énergie puisqu'on va commencer l'aventure, mais en termes de concentration, on se doute bien et on espère bien que ce sera juste pas une élimination directe. Je ne sais plus si on le savait ou pas, mais en tout cas, ça, c'est le seul stress qu'on peut avoir. Et de toute façon, même si on avait dit que ce n'était pas une élimination directe, soyons honnêtes, c'est la première fois qu'on est devant les caméras, on a pas envie de se taper la honte en tombant le premier. Donc là, je bénis d'abord Frédéric. Et puis ensuite, continuons. À cette première épreuve des poteaux, qu'est-ce qui se passe? On doit aussi enlever un taquet. Tout le monde l'enlève, il y a des survivants quand même. On va devoir enlever un deuxième taquet. Et là, tout le monde commence à tomber. Et si vous regardez à la télévision, quand j'enlève ce deuxième taquet, je penche vachement du côté droit, si je ne me trompe pas. Que va-t-il se passer? En off, en fait, je tire sur mon câble, mais mon câble ne défait pas le taquet. Je vais tirer parce que j'ai peur d'être éliminé, parce que je vais être en retard par rapport aux autres. Et en fait, mon câble va casser. Donc, je tombe à l'eau, je dis « Denis, il est à mon câble. Non, taisez-vous, le jeu est fini. » Alors, j'arrive calmement chez Denis, je dis « Écoutez, regardez, mon câble est cassé. » Alors là, il appelle le VAR, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Koh-Lanta, mais donc, il pose la question au caméraman, et effectivement, le VAR va voir. Mais bon, on le voyait bien, parce que j'avais mon câble en main, il était cassé, non, dit Joe. Mais bon, il appelle le VAR, effectivement, on voit qu'il manque une partie de mon câble. Et donc, on va me demander, évidemment qu'on interrompt l'épreuve, c'est logique, parce que ça, je salue dans Koh-Lanta, mais on essaie toujours que tout le monde soit équivalent, qu'on ait tous les mêmes chances, c'est très, très respectueux. Et donc, dès qu'il y a eu ce genre d'accident, qui peut arriver sur d'autres épreuves aussi, on interrompt le jeu. On a notamment passé ici un bâton à tout le monde pour qu'il puisse tenir sur les poteaux. Et on me demande de rapidement remonter sur les poteaux. Pas rapidement. Donc, on me refait l'échelle, je remonte, on va me laisser un équilibre, retrouver mon équilibre. Effectivement, on va dire, vous êtes prête? Oui, et 3, 2, 1, et c'est parti. Si ce n'est qu'à ce moment-là, on a les jambes qui flagellent complètement. On est super impressionnés qu'on ait moins l'occasion de se concentrer que les autres. Mais c'est normal, c'est le jeu, j'ai déjà de la chance d'avoir pu remonter. Et donc, je vais tomber assez rapidement après. Et donc, maintenant, je viens au dernier poteau, évidemment, à la finale. Tu me demandes si c'est plus difficile. Il y a une chose. Effectivement, à la finale, là, si on tombe, c'est fini. Et si on tombe, si on n'est pas le dernier à rester sur les poteaux, on a toujours le risque de ne pas être pris. Donc ça, c'est l'horreur. Et puis, il y a la fierté aussi. Donc, on a envie de rester le plus longtemps possible et surtout de pouvoir le choix de son avenir. Alors, c'est extrêmement long, mais en même temps, je vais t'avouer que de mon côté, ça ne m'a pas semblé si long. Ce n'est pas pour faire la grande gueule. Par contre, donc au niveau corporel, je ne souffrais pas. Par contre, au niveau visuel, il faut être très concentré, comme le dit Claude. Et donc, je fixais vraiment devant moi et je commençais à avoir flou. Je ne sais pas si c'est le soleil qui me tombait sur la tête. Je pense que c'est plutôt la fatigue, effectivement. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Je suis à l'aise, comme on peut l'être en étant fatigué, effectivement. Il y a Steve qui va tomber. Donc, je ne cache pas que je suis soulagée qu'il y en ait déjà un qui tombe. Il reste un deuxième taquet, donc on a enlevé un côté, on a enlevé l'avant si mes souvenirs sont bons, et on va enlever le côté. Et là, je me souviens évidemment de la première fois. Sinon, Tichu, il ne faut pas que ce taquet coince. Et donc, je commence à penser à ça, je dis, merde, si ça coince, on va redonner le bâton à Cindy, je vais devoir monter, mais la plateforme sera hyper petite, je vais encore perdre mon moyen et tout. Tant et si bien que quand Denis nous dit bien, attendez, c'est à trois, je vais dire un, deux, trois, ôter les taquets, à ce moment-là, on le fait. Et il dit 1, 2, et là, je commence à gamberger. Je dis, Maud, si ça coince, c'est l'horreur, fais un test. Ben, j'ai tellement bien testé que vous avez vu à l'écran ce que ça a donné. Donc, j'ai tiré mon taquet à 2, et quand on voit Cindy et moi, en fait, on prend le même temps plus ou moins pour tomber, mais c'est de ma faute, j'ai tiré mon câble trop rapidement. Voilà, donc c'est un souvenir de biais, mais en même temps, c'est vrai que c'est, comme tu le disais très bien, juste si je pense, si je me rappelle
oui, c'est
bien, c'est vrai que ça doit être pelant à regarder, c'est vrai que c'est long, mais ce qui est bien, par contre, je pense que ce genre d'épreuve donne la chance à tout le monde. Tout le monde devrait, en principe, être capable de tenir sur un poteau. Alors, c'est vrai qu'on a des plus grands pieds. C'est vrai qu'on pourrait le faire au ratio, faire à la proportionnelle par rapport à la taille des pieds. C'est vrai, il y a autant de c'est vrai, mais en même temps, je trouve que c'est déjà très, très bien choisi d'avoir une épreuve qui puisse être jouée par tous, tout simplement. Voilà.
Oui, c'est vrai. Le fait que ce ne soit pas une épreuve de force, d'endurance pour terminer... Ça donne la chance à tous les âges, tous les candidats des chances égales.
Ouais. Et alors, il y a une chose que je salue cette fois-ci. Je me dis, mon Dieu, comment ils font. J'ai vu Claude qui regardait à gauche, à droite, qui essaie de déconcentrer Inès, qui regarde à gauche, à droite. Par contre, Nawel, je ne pense pas qu'elle bouge beaucoup. Moi, j'aurais eu peur, effectivement, de regarder à gauche, à droite et de me casser, de tomber. Donc là, je les salue, j'avais l'air très à l'aise. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire encore.
Bah, en tout cas, merci Maud, parce que dans la narration, je crois que tout le monde était un peu suspendu à tes lèvres. C'est vrai.
Je l'ai étudié par cœur, en fait, voilà. Non, je ne savais même pas que vous alliez me poser cette question.
Non, en tout cas, c'est toujours très sympa d'entendre ton ressenti, et puis cette histoire avec les câbles, c'est vrai que du coup, ce n'est pas quelque chose auquel on pense, donc c'est... Non, bah, merci beaucoup un peu pour cette anecdote. Du coup, je vais passer la parole à Jules et à Jade ensuite, pour savoir un peu ce que vous pensez de l'épreuve des poteaux. Donc, Jules, c'est à toi.
Alors, moi, c'est vrai que c'est pas... En fait... C'est équitable, et ça, il faut le reconnaître, c'est bien d'avoir une épreuve équitable pour la fin. Et c'est pas très télégénique. Alors surtout que là, on a eu qu'un seul d'habitude, on a l'épreuve des poteaux après l'orientation. Ça fait un peu deux salles, deux ambiances pour un même épisode. Et là, en l'occurrence, on a eu que l'épreuve des poteaux avant le conseil final. Donc c'est vrai que c'était pas très télégénique. On avait beau écouter les blagues des trois derniers candidats, c'était pas voilà, c'est une épreuve un peu compliquée télé quoi. Même si elle doit être intense à vivre pour les candidats. Et alors je sais pas si vous avez vu la première saison, c'était presque pire en fait. Allez donc Gilles et plus de la concurrente de
Gilles Guenel et Patricia. Voilà.
Devaient toucher un poteau. Enfin, il y avait un poteau par terre sur un sol. Ils étaient tous les trois à toucher le poteau. Et là, fallait tenir le plus longtemps, enfin ne pas lâcher le poteau. Et ça durait tellement longtemps que Denis. Non, c'était pas Denis Brognard, c'était Hubert Auriol. Demandez. Là, cette fois-ci, si vous bougez la main. Vous êtes éliminé. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Gaëlle a bougé la main et elle a été éliminée. C'est Gilles qui a gagné. Du coup, ça, c'est encore pire. Je crois que c'est la saison suivante où on a eu les poteaux debout. Il y a le petit élément un peu plus télégénique, c'est de tomber dans l'eau, c'est plus sympa que lâcher un poteau de la main. Donc, je vois pas, après 20 ans, les questions reviennent souvent, est-ce qu'il faut pas changer cette épreuve? Après autant de temps, enfin, c'est devenu beaucoup trop, je pense que c'est devenu beaucoup trop symbolique de Koh-Lanta pour imaginer faire autre chose aujourd'hui. Parce que, il me semble, j'ai entendu dire que sur les émissions étrangères, enfin, les équivalents étrangers de Koh-Lanta, Il y a des épreuves différentes à chaque fois. Et là, c'est vrai que c'est tellement symbolique de Koh-Lanta, les poteaux, que j'imagine pas qu'on puisse faire autre chose que ça. Même si j'en serais la première ravie. Mais je pense que pour les fans de Koh-Lanta, ce serait pas forcément une bonne chose.
Très bien. À toi, Jade.
Alors, ma partie préférée de l'épreuve des poteaux, perso, c'est le fait qu'on donne le choix au gagnant de choisir le finaliste. Le gagnant des poteaux ne gagne pas le jeu. Les deux premiers des poteaux ne vont pas en finale. Le gagnant du poteau ne gagne pas un vote en finale. Il choisit vraiment son finaliste, en fait. Et c'est ce qui rend l'épreuve encore mieux, je pense, c'est qu'il y a cette notion de seconde chance qui existe avec les poteaux. Et c'est une notion que beaucoup de spectateurs, Ozzy le dit dans le chat, Estelle Denis qui n'est pas d'accord avec nous, mais le fait de pouvoir choisir son finaliste, ça permet notamment à des gens qui ont voilà, eu un jeu assez correct, d'avoir encore leur chance d'aller en finale. Tout simplement si on s'entend bien avec la personne qui gagne, si on n'est pas la personne la plus menaçante, si la personne qui gagne les poteaux estime qu'on mérite d'être en finale, on peut toujours y accéder. Parce que voilà, au final, on l'a vu sur les poteaux de cette année, un moment, une seconde de déconcentration et ça coûte la place. Ça s'est passé également sur la guerre des chefs où une petite réflexion de Maude concernant le câble a causé sa perte. Et le fait de pouvoir accéder à la finale malgré la défaite au poteau, c'est ce qui rend l'épreuve encore mieux. Et comme le dit Napoli sur le chat, le choix du finaliste fait partie de la dramaturgie des poteaux.
Très bien. Bah, du coup, moi, je réponds ça que je suis assez complètement d'accord avec vous. C'est que pour moi, l'épreuve des poteaux, bon, c'est beaucoup trop mythique pour être remplacé. Même si c'est vrai qu'au niveau télégénique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. De plus funky à regarder. Alors juste, Juju, t'avais raison, parce que tu dis que ça vient de Survivor. En fait, ça vient de la saison 2 de Survivor, The Australian Outback, qui était vraiment dans l'outback australien, comme son nom l'indique. Et c'était une épreuve qui était où il restait que 10 joueurs et les poteaux étaient vraiment des troncs d'arbres, donc ils étaient restés très longtemps. Sauf qu'il y avait un twist, c'est que l'animateur, toutes les heures, leur proposait de la nourriture. En échange de l'abandon de l'épreuve. Il y avait du beurre de cacahuète, il y avait de la pâte à cookies, il y avait pas mal de choses. Et c'est quelque chose qui revient un petit peu assez souvent d'ailleurs aux États-Unis pour les épreuves d'endurance et de patience. Et quelque chose que j'aimerais bien personnellement voir dans Koh-Lanta parce que ça rajouterait un petit peu le plaisir du choix. Donc on va passer ensuite au choix de Nawel, puisque suite à l'épreuve des poteaux, Claude a chuté en deuxième. D'abord Inès, ensuite Claude, et ensuite Nawel. Et Nawel a choisi, logiquement ou pas, Inès pour l'accompagner en finale, laissant tous les fans de Claude français dans la tristesse et le désœuvrement. Donc Jules, c'est toi qui vas nous présenter un petit peu le choix de Nawel. Pourquoi, selon toi, elle a bien fait d'avoir choisi sa copine jaune. C'est à toi.
Très bien. Donc déjà, elle a bien fait de choisir parce qu'elle a gagné, tout simplement. Bon, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a eu un déferlement sur Twitter des Claude Zouz. Il n'était pas content que Nawel choisisse et non Claude. Alors pourquoi pas Claude ? D'expliquer son choix, sans qu'elle avait déjà fait son choix, qu'elle n'a pas eu besoin de réfléchir très très longtemps. Comme l'a bien montré, le montage l'a bien démontré et les commentaires dithyrambiques l'ont bien démontré, Claude, c'est un héros, c'est le recordman de Koh-Lanta avec 17 épreuves. Et Nawel a ces mots en parlant de lui, elle dit « Claude et moi, on joue pas dans la même catégorie », ce qui d'ailleurs agace passablement le héros qui se sent totalement floué, puisque comme il est tombé en deuxième, il estime que c'était à lui d'être choisi et non pas à Inès. Mais faut pas oublier aussi que Claude contre Nawel, c'est... une ex rouge contre une ex jaune, et que Inès était également ex jaune comme Nawel. Donc, alors pourquoi pas Claude ? Déjà, c'est un homme et pas une femme, et peut-être que par solidarité féminine, il préférait déjà prendre une femme qu'un homme. C'est un héros et pas un régular vida régulier comme l'a été Inès. Y a aussi l'histoire de la couleur, c'est un rouge, elle est jaune. Donc c'est tout à fait logique et c'est le meilleur choix possible de ne pas prendre Claude face à Inès. Alors, et pourquoi donc Inès ? C'est là qu'on voit l'importance du social et des affinités, parce que alors, il y a eu la déferlante des Claude Zouz sur... parle de mérite Et au final, elle choisit à l'affect. Mais peut-être que si Claude a été un petit peu plus sympa, avait été un peu moins moralisateur, que si c'était un peu plus fait apprécier de des ex-jaunes, enfin des filles ex-jaunes, notamment Nawel et Inès, ben si ça se trouve, en plus elle l'aurait choisi. Que aussi une part d'affect dans ce choix, choisir Inès. Qui est son amie puisqu'elle l'a choisi pour aller en confort après avoir gagné preuve des sacs, qu'il y a forcément l'affinité et l'affect et aussi une énorme part de stratégie, évidemment que Inès était surnommée FC Bronzette, ce qui est pas très ne savent pas ce qui s'est passé sur l'île, c'est un petit peu péremptoire de donner ce genre de surnom. Mais il faut savoir que forcément, au niveau de la stratégie, Nawel devait être consciente que Inès avait plus de chances d'avoir de voix dans le jury en choisissant Inès que Claude. Donc c'était absolument le choix à faire et était démontré puisqu'elle a gagné face à Inès. Maintenant, on peut se poser deux questions. Donc, est-ce qu'elle aurait gagné si Claude avait été, enfin, si elle avait choisi Claude à la place d'Inès, est-ce qu'elle aurait pu gagner? La deuxième question, est-ce que l'absence de Charlotte et Alexandra aurait fait que Claude aurait gagné et non pas Nawel? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. A priori, d'après, si on refait les comptes, elle aurait peut-être quand même gagné, mais il y aurait certainement eu beaucoup plus de suspense. Moi, du coup, j'avais deux questions à poser à notre amie Maud. Qu'aurais-tu fait à la place de Nawel? Est-ce que tu aurais également choisi Inès ou Claude? Est-ce que tu aurais fait mérite plutôt que affect? Et une autre question par rapport à la guerre des chefs. Si Steve avait été choisi et non toi, qui aurait gagné, d'après toi?
Ah, bonne question. Je commence d'abord avec l'analyse par rapport à Nawel. Dans mes chroniques, ça, comme vous avez pu sans doute le lire, c'est vrai que je suis la première donc à dire que, comme je l'ai dit au début de cet entretien, en tant qu'aventurière de base, je suis heureuse d'avoir été avec des aventuriers de base. Donc, je me rappelle d'une Alexandra qui se plaignait. Bon, malheureusement, la façon de tourner les choses était peut-être un peu trop pleurarde, en tout cas à l'écran, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe effectivement sur l'île. Mais je pense que moi, en tant qu'aventurière de base, en voyant effectivement un Claude qui est un héros, qui est intouchable et qui effectivement, comme le dit très très bien Nawel, est dans une autre catégorie, c'est déjà vache et on sait qu'il est plus fort. Il n'y a rien à faire, c'est quand même le roi de Koh-Lanta. On a beau dire tout ce qu'on veut, même si au niveau social, parfois c'est vrai qu'il est un peu péremptoire, inclinons-nous à arriver trois fois au poteau, waouh. Et comme je l'ai écrit tout à l'heure, quand j'ai vu que Claude écoutait ce podcast, je suis jalouse. Je suis jalouse. Évidemment que je suis contente d'avoir gagné, mais avoir son potentiel, je lui écris également, attends de vieillir, représente-toi quand tu auras 60 ans. Au niveau sportif, peut-être que tu gagneras pas tout. Et j'ai presque envie de dire, au niveau social, je suis certaine que le carré sera encore plus arrondi parce qu'on voit que de saison en saison, il s'arrondit. Donc voilà. Maintenant, pour répondre à la question, donc par rapport à Nawel, ça me semble logique que je fasse ce choix-là parce que effectivement, comme tu l'as super bien dit, d'abord elle a la couleur de, ils ont la même couleur, c'est une jaune. Deux, j'insisterai aussi sur le fait que il ne faut pas l'oublier, Nawel, c'est un petit peu le maître Jedi du Padawan qui est Inès. Mais je prendrai plus encore une autre image, une autre métaphore. C'est un peu Thelma et Louise. Il y a, dans Thelma et Louise, je ne sais pas si vous connaissez ce road movie. Je pense que c'est Louise qui est la plus folle, ça je ne sais plus justement. Et j'ai l'impression de voir Inès et de voir Nawel. Effectivement, Nawel était plus sage, etc. Mais elle a aimé la folie d'Inès, et ça l'a éclairée. Et Inès, qui était peut-être un peu plus à être explosive, à vite aller, a pu entendre la sagesse de Nawel, l'analyser et finalement elle a bonifié. Donc c'est une magnifique histoire d'amitié. Et je pense que réellement, Inès a sans doute été un sourire et une grande bulle d'oxygène comme moi, je l'ai eu avec Cyril, et que pour Nawal, et que Nawal a été quelqu'un de sécurisant, à l'écoute, et qui permettait justement aussi d'arrondir les angles et de permettre à Inès de se remettre en question. Donc voilà, je trouve que c'est une belle histoire d'amitié, comme il y en a beaucoup dans Koh-Lanta. Et si on ne voit pas le binôme, un peu comme Cyril et moi qui étions en survie, c'était un réel binôme. N'oublions pas qu'on ne voit que 20h, 21h de film, alors que les journées ont 24 heures et qu'ils sont sur l'île 32 jours, me semble-t-il.
Et pour la deuxième question, du coup, je te la rappelle, si Steve a été choisi, qu'est-ce que tu penses qui se serait passé ?
Alors, je pense que si Steve avait été choisi, je vais être un peu vache, hein, je vais dire, ce sera en deux étapes. Je pense que si Steve avait été choisi, il me semble qu'il gagnerait.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que, un, sur le camp, il nourrit les gens. Il nourrit les gens, il a un bon caractère. Bon, il va pouvoir aller au lever, mais sinon, il nourrit les gens, il est gentil, il trouve les mots pour dire les choses, donc ça, c'est très, très bien. Et je veux dire une chose. Il est jaune, il n'est en opposition avec personne dans son équipe, et donc aucun des jaunes, à mon sens, ne va voter pour moi. L'avantage que j'ai par rapport à Cindy, c'est que Cindy, quelque part, s'est mise en opposition avec Max, qui va aller très loin, et je vais gagner sa voix. Notamment, de plus, nous, on n'est que deux rouges. Hein. Au conseil final, il y aura Alexandre qui sera également là, donc on n'est que trois. Je suis assez fière que sur les trois, j'ai pu quand même, enfin sur deux votes possibles pour moi, j'ai pu quand même gagner cette rencontre. Mais Steve avait donc, un, l'avantage d'être quelqu'un qui était très bien sur le camp, deux, l'avantage de faire partie d'une équipe plus nombreuse que la mienne, qui aurait certainement été pour lui de toute façon. Et je pense que les gens qui sont nourris par quelqu'un qui est très humain auront peut-être plus tendance à voter pour lui que pour moi, ça je ne sais pas, je n'en sais rien.
D'accord.
Une chose quand même, je vais être un tout petit peu vache.
Vas-y.
Je vais être un tout petit peu vache. Et Steve, je le lui ai dit directement lorsque j'ai vu l'émission. Je me suis dit, waouh, c'est quand même un salopard de stratège.
Ah, oui.
Parce que quand on voit dans l'émission, mon pauvre Cyril qui revient des courriers, oui, qui a donné son courrier pour les autres, et que finalement, Steve en off dit, ouais, pour recevoir le dessin d'un poisson rouge, et le courrier pouvait rester là. Pourquoi n'a-t-il pas un peu tempéré Nicolas et Mo ? Donc, je me dis qu'en voyant ça, ben, je suis contente d'avoir gagné. Et voilà, c'est tout.
Ah, c'est ça, c'est que Steve, il était très filou, justement. Il parlait pas de stratégie.
Très mais... filou, très habile. Gratitude, incroyable, incroyable, très, très habile. Et là, je salue la discrétion de sa stratégie. Voilà.
Ouais, c'était c'est un personnage un peu sous-estimé, je trouve, avec le temps. C'est qu'on on se rappelle de lui parce qu'il avait un caleçon sur la tête, mais c'est tout, alors que c'était vraiment un des meilleurs joueurs de la saison, je pense.
Je suis d'accord. Maintenant, j'ai pas dit que je... Enfin, j'aime moins cette façon de faire de la stratégie parce que, quelque part, c'est un petit peu au détriment de Cyril qui en a beaucoup souffert. Mais peut-être que nous aussi, on a fait souffrir, et je peux le dire, on a... À la fin, dans le choix d'être solidaire, Cyril a été extrêmement habile. On se rappelle au moment du choix, on va arriver entre Claude et lui, Claude, pardon, et lui. Il va arriver au boule noir. Et là, j'ai envie de dire qu'il y a une histoire d'amitié. C'est vrai que Cindy n'avait pas voté contre lui la première fois. C'était une histoire d'amitié. Et là, quelque part, c'est vrai, Cyril a été un peu filou. Je sais que Cindy, on a énormément souffert. Par rapport à Cyril, même moi aussi, qui évidemment, et je l'assume, est soutenu Cyril, et je le ferai encore. Et là, j'ai eu droit à l'engueulade de ma vie. Je me suis fait démonter par Cindy, et je pense qu'elle a eu très mal, et que c'est pour ça qu'elle a réagi de la sorte, et c'est pour ça que ça n'a pas paru à l'écran, parce que ça n'apportait rien, ça ne grandissait personne.
Et oui, mais c'était bien joué de sa part quand même. Enfin, c'était la chose à faire.
Ah, c'est génial à jouer. Mais je cautionne tout à fait Cyril, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments quand on fait une stratégie où on peut être filou ou parfois même jouer d'une stratégie pour laquelle je suis un peu moins à l'aise. J'aime quand la stratégie est un jeu, mais il n'y a rien à faire. Dans Koh-Lanta, on doit parfois faire des sales coups. Ça, j'aime moins, mais peut-être faut-il le faire aussi, et ça fait partie du jeu. Et chacun a le droit de jouer comme il le veut. Mais donc, pour revenir à l'histoire de Steve, c'est vrai qu'il a été extrêmement habile. C'est vrai que quelque part, il avait raison peut-être de se taire pour rester bien dans l'image par rapport à Mohamed et Nicolas. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal pour Cyril ? Et vous savez bien que Cyril, c'est plus que, qu'un copain de Koh-Lanta, c'est un ami. Et donc, c'est pour ça que je dis ça.
Tiens, d'ailleurs, Maud, il y a Mehdi FCB 1899, donc plein de chiffres. Il y a Mehdi, donc on va dire que sur le chat, qui voulait te poser une question. Donc, si tu avais gagné des poteaux face à Cindy et Cyril, qui aurais-tu choisi ?
Ah, dis-tu, gagner les poteaux contre Cindy et Cyril, j'ai pas le choix. Ça doit être Cyril. C'est mon ami, je peux pas. Ah, je peux pas faire ça, je peux pas. Ça, c'est mon ami. Maintenant, j'avais de grosses chances peut-être de perdre, j'en sais rien, parce que Cyril, il y a des gens qui lui en voulaient parce qu'il a été stratège. Et pourtant, je l'assume, j'ai été aussi stratège que lui puisque j'ai cautionné tous ses choix, qui ne dit mot consent. Donc, j'estime que la stratégie, c'est quelque chose qui est construit à deux, mais je veux quand même lui en donner l'intelligence. Voilà.
Alors, sur le choix de Nawel, je crois que tout le monde est un petit peu d'accord dans le chat. Je vais demander l'avis de Jade. Doc, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, le choix de Nawel est totalement logique. Et j'ai limite envie de dire que si Claude voulait éviter cette situation, il avait la possibilité au conseil de la demi-finale, le dernier conseil, d'éliminer une des femmes. Parce que je me rappelle, lors du podcast de cet épisode, on avait rappelé que les femmes, si elles sont à trois à l'orientation, ça leur donne l'occasion d'être deux au poteau et de se choisir mutuellement. Donc, il avait la possibilité de faire un meilleur coup et sa défaite est totalement logique.
Très bien. Ensuite, Juju, qu'on n'a pas entendu à ce sujet.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Le choix de Nawel, il est 100% logique et il faut le faire exprès pour pas comprendre. Quand tu as le choix entre le mérite, la belle finale face au héros qui a été encensé toute la saison par Denis et par l'histoire qu'a voulu raconter la prod cette saison. Ou alors une finale de cœur où tu sais que tu es favorite et tu vas probablement remporter 100 000 euros, bah, le choix il est quand même vite fait. C'est à la fois le choix du cœur parce que Nawel et Inès, elles ont fait toute l'aventure ensemble. Elles ont développé une vraie relation très forte de grande sœur, petite sœur. Avec Claude, il y a aussi une relation de respect mutuel, un peu comme avec un mentor, si vous voulez. Enfin, ils ont formé un binôme à l'épreuve des destins liés. Ils ont l'air de bien s'entendre, mais leur relation elle est incomparable avec celle que Nawel a développée avec Inès. C'est aussi le choix de la raison, parce que comme je disais, je comprends complètement qu'elle n'avait pas envie de se retrouver face à Goliath final. La finale aurait été plus déséquilibré vu les performances de Claude et la façon surtout dont il a été présenté toute la saison. Donc le choix, il est logique et faut, enfin, je pense que tous les candidats le respectent, tous les anciens candidats le respectent et je vois pas pourquoi sur les réseaux sociaux il y a autant de gens qui n'arrivent pas à se mettre à la place de Nawel et à comprendre et respecter son choix.
Moi, j'ai une autre question qui me pose par rapport à la prod et comment les choses ont été montrées. Moi je me posais la question au moment où Alexandra a été évacuée lors de l'épreuve de l'orientation. Je ne savais pas si elle serait oui ou non dans le jury final, puisque ça n'a pas été évoqué. Moi je me suis demandé, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que quand on a dit à Nawel de faire son choix entre Inès et Claude, est-ce qu'elle savait qui était dans le jury final à ce moment-là ou pas ? Ça, c'est vraiment une question que en écoutant la finale, j'ai jamais eu la réponse. Je ne sais pas du tout si elle savait ou pas. Et deux personnes en moins, en plus, auraient pu voter pour elle, quoi. Votre avis là-dessus ?
Bah, c'est qu'on savait déjà que Charlotte, donc ça, on l'a su ensuite, c'est qu'elle a eu un souci familial et elle a dû rentrer plus tôt. Pour Alexandra, j'imagine qu'elle a dû rester un petit peu en observation à l'hôpital, parce que après, il faut se dire, c'est que les poteaux et l'orientation, c'est le lendemain, donc peut-être que Alexandra était encore un petit peu faible pour, parce que c'est poteaux la journée et conseil le soir, je crois, je sais plus. Ouais, donc J'imagine que Alexandra était peut-être encore un peu faible, elle était encore en observation pour pouvoir assister au jury final. Mais c'est vrai que du coup, avec deux en moins, et cette saison, ouais, il y a beaucoup de choses. On dit beaucoup, oui, les retours des anciens et tout, enfin, avec les évacuations médicales. Je pense que cette année, il n'y a eu aucune évacuation médicale qui était douteuse, en fait. C'est quand on écoute les raisons des uns et des autres, effectivement, bon, genre, on parle d'une bactérie qui attaquait les intestins de la pauvre belge Marie. Sarah, bon, on le sait, qui se fait une éventration abdominale, alors ça avait horrible dit comme ça. Donc, non, c'est ça, tout est fait. Enfin, de ce côté-là, je pense que ça n'a pas été. C'est pas entaché, j'irais, d'un certain doute. Mais là, pour le coup, ça. Avec deux personnes en moins, donc Alexandra et Charlotte, qui auraient été susceptibles d'être contre Claude. Claude arrive en finale. Je pense qu'il aurait déjà eu peut-être un peu plus de chance, c'est sûr.
J'avais une question pour Maud au sujet de la dernière journée de jeu entre les poteaux et le dernier conseil, le conseil final. On ne voit pas grand-chose de cette journée ou cette demi-journée à la télé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous faites ? Est-ce que la pression retombe déjà ? Ou alors non, on pense beaucoup, beaucoup au conseil final, on se prépare au discours, aux questions, etc.
Alors, ça se passe en deux ou trois choses. En fait, il y a trois moments très forts. Il y en aura peut-être encore un que j'ajouterai, hein, je ne sais pas, mais pour le moment, j'en vois trois. D'abord, le fait d'être choisi. Évidemment que là, au moment où Cindy va dire « moi, je vais prendre Maud », c'est on se dit ouf, ça c'est encore maintenant, je dis ouf, j'ai fait une connerie, mais allez, je reste, et même si je vais vous dire, bon voilà, effectivement je peux aussi vous donner un tout petit scoop, mais c'est pas un scoop, vous savez bien que quand il y a des votes ou que quand il y a justement des choix, on en parle avant. Parfois l'aventurier sait qu'il va sortir ou se doute qu'il va sortir, parfois c'est aussi un jeu, un coup de Trafalgar. Donc, faire confiance, quand on dit « Maud, tu sors pas, t'inquiète pas, ce sera un tel », on espère que ce sera ça, mais ça peut être aussi tout à fait stratégique, et tu sors. Bon, il faut savoir que pour les poteaux, moi, chacun des deux candidats était venu me trouver en me disant « moi, si je tombe, ce sera toi ». Et le lendemain, l'autre était venu me trouver, je crois que c'était Steve le lendemain, qui me dit « moi, si je tombe, Maud, ce sera toi ». Donc, quelque part, je me dis « waouh, cool, peu importe que je gagne ou pas les poteaux, ce sera pour moi ». Puis, bon voilà, je me dis de toute façon, Maud, tu fais tout au maximum. Et in fine, que va-t-il se passer ? Je vais tomber. Et là, je dis, mais merde, t'es con, Maud. C'était tactique. Ils ont voulu t'endormir. Et maintenant, si t'es pas prise. Donc, comme je... Ah oui, parce que tout peut. Donc là, vraiment, je me dis, mais mince, pour ne pas dire autre chose, voilà, je... vraiment couillonnade. Donc, bref, quand Cindy me choisit, je suis soulagée, heureuse. Première étape. Deuxième étape, et c'est vrai que je pense au pauvre Steve qui part à ce moment-là, mais honnêtement, égoïstement, à ce moment-là, je suis dans le bonheur. Hein. Voilà, excusez-moi, mais voilà, maintenant je pourrais dire le pauvre Steve et blablabla. Oh, à ce moment-là, tu te dis waouh, je reste. Alors, on rentre à Lille, et là, c'est. On se pose, on va un peu se coucher parce que voilà, on faut se remettre de l'aventure. Et là, on le voit à l'écran, il y a Cindy qui commence à compter. Et qui dit donc il y aura toi, il y aura moi, je pense qu'il y aura ça, ça, ça pour moi. Et donc elle annonce que clairement, je n'aurai pas beaucoup de voix. Donc je dis merde, je vais sans doute tomber. Donc finalement, elle m'a choisi et me confirme qu'elle me choisit. C'est un choix stratégique, ce n'est pas vraiment parce qu'elle m'aime. Mais bon, ça c'est normal, on doit tous le savoir qu'en général, sauf si c'était Cyril, et encore c'est parce que j'allais gagner contre lui. Hein. Ça c'est pour rire. Mais donc voilà, ça c'est la deuxième chose, donc c'est de la voir se coucher, de souffler, de se dire ok, j'ai gagné. Je fais des grands raccourcis, hein, mais je le sens un peu comme ça, et moi je me tais parce que de toute façon je peux rien dire. Et là, chose magnifique, si je me souviens bien, on va recevoir une banane. C'est magnifique de pouvoir manger un petit quelque chose. En même temps, je vais vous avouer que Cindy et moi, on espérait tellement avoir un repas et qu'on nous attende avec un bon jus de fruits et quelque chose de beau. Non, on aura une banane, mais c'est déjà génial. Bon, peut-être que j'ai un peu défloré, que la production m'excuse, mais bon, voilà, je dis simplement cette petite chose-là. Et de toute façon, le jeu, à ce moment-là, est terminé. Donc, quand on oublie, vous mangez dans Koh-Lanta, n'oublions pas qu'on est le dernier jour, que le soir, il y a le conseil et que de toute façon, on va manger. Donc, si j'ai défloré quelque chose, nous, on n'a pas triché, nous, il n'y avait plus d'épreuves. Et si on tombait dans la paume, à ce moment-là, ça ne changeait rien. Donc, je tiens à faire souligner cette chose. Ensuite, étape suivante, on va nous demander donc vous nous proposer effectivement de dire adieu au camp. Et là, on va brûler le camp. Donc, c'est un moment très fort. C'est un moment très fort parce qu'effectivement, on a le flashback de tout. C'est fort. C'est un moment, là, j'avais les larmes dans la tête. Je ne les ai pas fait sortir, mais c'était vraiment un moment très fort pour moi. Et des larmes d'émotion, c'est positif. Mais se dire, waouh, j'ai été jusqu'au bout. J'y ai été. Enfin, je sais pas si Claude a encore ça après 3 fois, mais moi, c'est un moment magnifique. Enfin, on va nous amener à l'île du Conseil. Et on sait bien qu'un conseil se fait toujours de nuit. C'est logique, c'est la tradition, c'est comme ça. Et donc, on va devoir attendre, il fait encore jour. Et là, contrairement aux autres fois, on va être abrité dans une tente, dans une tonnelle. Et on va nous dire, voilà, maintenant, vous avez le temps de penser au discours que vous allez faire aux différents aventuriers pour défendre votre cause. Et donc là, c'est la très grosse concentration. Donc voilà, évidemment, vous me connaissez, vous voyez comme je parle, c'était beaucoup trop long. Donc Denis a dû me dire de me calmer. On a coupé, je râle parce qu'il y a tellement de choses. Mais c'est vrai que je comptais sur mes doigts tout ce que je devais dire. Et au moment où Denis m'a dit de me taire, ben mince, il me restait encore un doigt complet avec au moins 3 phalanges, quoi. Je me rappelle encore que je les remerciais, que j'aurais pu tous gagner. Je me rappelle encore que je leur ai dit, mais j'avais votre âge dans ce Koh-Lanta, c'était génial parce que je vous regardais, donc j'étais jeune. Il n'y a rien à faire, on a l'âge de la personne qu'on voit. De toute façon, parce qu'au niveau mental, ça s'était bien acquis. Et donc voilà, il y avait plein de choses que j'ai envie de dire, mais bon, ça a été coupé et je pense que Denis a eu raison parce que peut-être que je serai encore sous l'île à causer. Donc voilà ce qui se passe.
Ah, très bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter un petit peu sur ça, sur le choix de Nawel et tout ça? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, mais il y a peut-être des petites choses qu'on n'a pas vues.
Je pense qu'on a été assez complet là.
Alors du coup, moi je tenais à dire quelque chose que j'ai vu dans le chat. Donc quelqu'un qui disait pourquoi pas final entre deux derniers des poteaux et premier qui a un vote supplémentaire. Alors moi je sais pas si vous êtes d'accord, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est à quel point les gens essayent toujours de trouver des solutions hyper tordues pour la règle des poteaux pour que leur chouchou gagne. Et c'est au lieu vraiment juste d'accepter le vainqueur, d'accepter que la simplicité de l'épreuve, c'est juste le premier qui reste choisit l'autre en finale, c'est simple, c'est direct. Pourquoi ils essayent toujours un petit peu de trouver des trucs un peu tordus pour réparer une soi-disant injustice? Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça.
Non, mais clairement là, j'ai fait l'erreur d'aller sur Twitter pour voir les réponses aux tweets d'ADF en général, ce que pensaient. Moi, j'étais pro Nawel. Hein, je n'ai pas besoin d'être neutre. J'ai pas besoin de m'en cacher. J'espérais qu'elle gagnerait parce que je trouve que c'est une personne attachante et qui, en plus, même si on se place du point de vue mérite sportif, de ce côté-là, elle était méritante. Mais j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens sont de nouveau acharnés, voilà, et pourquoi il a fallu qu'il y ait des haters qui ne supportaient pas que Claude n'ait pas été choisi. Et je trouve ça un peu dommage et je voulais en placer une parce qu'en plus là on avait affaire à une future maman enceinte et il y a eu vraiment des commentaires dégradants et ça j'ai vraiment, du point de vue, comme je suis maman moi-même, j'ai vraiment pas supporté quoi. Et je voulais aussi en placer une pour les haters pour dire que c'est pas parce que Claude n'a pas gagné. Là, en plus, si vous voulez ajouter des règles pour faire en sorte que votre chouchou gagne, là en l'occurrence, il y aurait une voix en plus pour Nawel et pas pour Inès. Donc puisque c'est elle qui a gagné les poteaux, il faut pas l'oublier, quoi. Donc en plus, je crois que l'année dernière, c'est Cindy qui a gagné les poteaux et elle n'a pas remporté Koh-Lanta. La fois d'avant, c'est Pascal qui a remporté les poteaux. C'est Clémence qui a gagné. Là, en plus, ils ont pas grand chose à dire, ces haters, puisque elle a gagné les poteaux, elle a fait son choix, donc sa victoire est d'autant plus méritée, quoi.
Voilà. Donc, Jade, du jus.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Koh-Lanta, plus les tours avancent et plus les choix stratégiques et les épreuves deviennent importants. C'est-à-dire qu'on arrive au poteau, celui qui gagne est assuré d'être en finale et assuré de choisir son finaliste. C'est-à-dire que la victoire au poteau est hyper importante. Donc là, déjà, pour moi, les premiers rites, ils sont servis, quoi. Genre, le gagnant des poteaux, il a un avantage énorme. Et c'est normal, il a gagné les poteaux. Pareil, les choix stratégiques sont hyper importants parce que on gagne potentiellement le jeu ou on les perd à ce niveau-là en choisissant notre finaliste. Donc, si Claude n'est pas choisi, c'est qu'il a fait une erreur à un moment donné dans le jeu. Il aurait pu potentiellement arriver au poteau avec des gens qui se détestaient ou avec des gens qui ne se seraient pas pris ou avec des gens qui seraient tombés des poteaux parce que Nawel a quand même gagné une épreuve d'équilibre contre Sam, quoi.
Juju.
Oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Il y a un commentaire de Raven sur le chat qui dit « Avant, le grand discours, c'était « Celui qui gagne les poteaux doit gagner le Koh-Lanta », principe qui ne s'applique évidemment pas si le vainqueur des poteaux s'appelle Clémentine, Cindy ou Nawel. » Et je suis complètement d'accord avec ça. Si les gens essayent toujours de trouver des moyens pour faire « Ah oui, mais si, ben, mon chouchou aurait gagné, ça va 5 minutes, quoi. » Mais on aura le débat chaque saison, hein, dans tous les cas. Il y aura toujours des gens pour réfléchir aux règles et trouver des règles tordues pour faire gagner leur chouchou. Donc, bon, c'est comme ça.
Je peux juste dire quelque chose?
Oui, vas-y.
Oui. Je suis très touchée par ça. Je crois que les gens oublient que Koh-Lanta 1, c'est un jeu. C'est un jeu, donc c'est inutile quand quelqu'un gagne. Il ne faut pas en prendre, en faire une maladie. C'est comme ça, c'est un jeu. Et deux, je pense que les gens oublient effectivement trop souvent que ce n'est pas... Bon, voilà, Claude s'est incliné au poteau, il aurait pu gagner, ça c'est vrai, mais que ce n'est pas le champion du monde de sport qui va gagner, c'est le champion du monde effectivement du côté social, de la stratégie, comme vous l'avez très bien dit. Et je pense que c'est comme une chaise, il faut les quatre pieds et il faut ce social qu'il avait, mais peut-être un petit peu moins que Nawel, parce que dans ses remarques, Nawel était constructive et je pense que Claude doit apprendre à être peut-être plus constructif dans ses remarques. Il a une très très belle vision du jeu, mais c'est parfois plus de la critique, donc essayer de tourner autrement cette capacité-là. De la stratégie, ben, voilà, comme vous l'avez déjà dit, il y a plusieurs sortes de stratégies et la survie, il l'avait tous les deux. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à tout, il faut pouvoir accepter que les choses se fassent. Un jeu, c'est un jeu et voilà. Gagner les poteaux est une épreuve parmi tant d'autres, et le reste, on le gagne sur les 30 ou les 40 jours d'aventure, c'est tout.
Bah, c'est très bien dit, c'est très bien dit justement, c'est direct simplicité, et j'aime beaucoup la métaphore de la chaise, je pense qu'on... tu nous autorises à te la piquer ?
Bah, bien sûr, je t'en prie. Mes enfants en ont marre que j'en parle de cette chaise, ils disent « Ah, oh, Maud, reviens pas, maman, reviens pas avec ta chaise, mais pour moi, une chaise, elle a 4 pieds, c'est tout.
Très bien, alors du coup on va passer à la troisième chronique, c'est Jade qui va nous parler du conseil final, puisqu'il y a eu Nawel face à Inès, où chacun a un petit peu défendu son jeu et sa personnalité. Alors un conseil où il y a eu quand même beaucoup de place donnée aux embrouilles entre Hamad et Claude et entre Hamad et Moussa, voilà, on va choisir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Donc Jade, tu vas nous parler du conseil final, c'est à toi.
Ouais. Donc ce conseil final qui s'ouvre, on le rappelle, sans Charlotte et Alexandra, qui n'ont pas pu y assister pour raisons médicales et personnelles. Donc on commence par l'arrivée de Moussa, éliminé à l'orientation. Et là, comme d'habitude dans Koh-Lanta, il y a les questions des jurés pour le perdant. Donc Hamad lui rappelle sa trahison et Moussa lui répond que Hamad n'avait pas suivi la consigne. Alors là, je pense qu'il y a... j'ai envie d'y revenir 2 secondes, c'est que d'un côté l'excuse est assez faible, quoi. C'est juste un vote pour qu'Hamad se sauve, mais d'un autre côté, dans la situation d'Hamad où il dépend quoi qu'il arrive des jaunes, il aurait mieux fallu pour lui suivre la consigne des jaunes pour ce conseil de manière assez bête pour ensuite gagner du temps et poser son jeu. Donc là je pense que on peut critiquer les deux côtés. Et la question est d'ailleurs posée à nouveau à Claude ensuite. Mais on va aussi revenir sur un autre moment de ce conseil final. C'est encore une fois le collier de Théoura. Le collier de Théoura, on revient là-dessus alors que Charlotte est absente. Et Théoura remet la faute sur Charlotte, comme quoi le collier qu'elle avait trouvé devait servir au binôme et pas le sien. Ce qui est totalement débile, parce que Charlotte aurait très bien pu garder son collier pour elle, c'est un collier individuel. C'est un coup qui n'a pas fonctionné. C'est un coup de poker qui a été mauvais, on a envie de dire. Mais Théoura avait aussi un collier d'immunité. Théoura aurait pu le jouer. Et encore une fois, voilà, Théoura, je pense qu'il a été assez ridicule sur ce conseil final. Je conçois pas trop ses excuses, que je trouve assez bidons. La séquence avec Théoura, Moussa, Ahmad, limite, elle dure plus longtemps que la finale à deux, en fait, quand il y a Inès et Nawel. On avait limite l'impression que les finalistes servaient de second plan. Ensuite, on a l'arrivée de Claude. Et encore une fois, il y a la question d'Ahmad qui revient sur la trahison, sur la promesse qui a été faite. Encore une fois, que Claude répond comme Moussa et Denis Brunière renfonce le clou.
Mais voilà, justement, j'aime que vous soyez revenu donc deux fois sur Ahmad. Moi, j'ai juste une question que j'aurais aimé poser à Claude ou à tout le monde. C'est simplement, Ahmad, la condition que Moussa lui met au moment des ambassadeurs n'était-elle pas si tu vas avec nous pour éliminer, je ne sais plus maintenant qui a été éliminé à ce moment-là, Delphine, on te promet de te garder comme dernier rouge. Est-ce que je me trompe ou pas?
Exactement, oui.
Bon, ça c'est une chose. Donc c'est ça, moi j'aurais posé la question. A-t-on à un seul moment dit à Ahmad, si tu suis nos consignes, tu seras obligé dorénavant de voter comme nous à tous les conseils? Moi, je ne pense pas. Donc, je suis choquée qu'on ait joué à dire que Moussa et Claude ou les autres, parce que ça les dérangeait bien de devoir retirer leur parole, ont trouvé comme excuse de dire « tu ne nous as pas choisis ». Je pense que les termes du contrat n'étaient pas ceux-là. Donc, moi, quelque part, j'ai mal au cœur pour Ahmad, parce que c'est un stratège social qui donc essayait d'avoir du cœur, de s'entendre avec les gens, et c'était sa force que d'être stratège. Et je pense que là, oui, bien sûr, comme je l'ai dit, dans les jeux, tous les coups sont permis, mais que ça a été une fameuse stratégie de la part de Moussa et de Claude d'aller dans le même sens et de tous les autres qui ont été d'accord, que de dire « Ah, il n'a pas tenu sa parole ». Ce n'était pas ça, les règles du jeu lors des ambassades. Voilà, je tenais juste à souligner.
Vous êtes entièrement raison. Ah ouais, Mais bon, voilà, quand c'est les héros, bizarrement, on va moins pointer leurs erreurs. Enfin, ils ont eu un montage quasiment hagiographique cette saison. Donc...
D'accord. Ils ont même pu changer les règles du jeu parfois, mais voilà.
Bravo et merci.
Nous, on aurait bravo été encastrés. Hein, si on avait dit, moi, je ne veux pas le concours, je donne à un autre. Mais on était encastrés par Denis. Mais effectivement, c'est un retour des héros. Ça peut aussi, le jeu peut évoluer. Donc, je ne vais pas du tout attaquer le fait. Mais je me suis dit, waouh, les héros, ils ont de la place. Mais ce sont des héros. Donc, c'est quand même Denis qui a le contrôle.
C'est ce qui s'est passé avec Aurélien, non? Oui, puisque tu étais encore là au niveau de l'épreuve des sacs. Aurélien a dû prendre tous les sacs, et il ne pouvait pas partager. Quoi.
Oui. Exactement. Mais voilà. Exactement. Alors que ce soit fille ou garçon, voilà, c'est vache, mais c'est le jeu. Mais en même temps, c'était élégant. Mais je pense que si on n'avait été que des aventuriers tout seuls, on ne pouvait pas changer les règles. Mais de nouveau, il y avait des héros. Et donc, peut-être que cette latitude pouvait être laissée. Surtout que c'est vrai que les gestes étaient beaux. Mais bonjour la stratégie aussi, mais ils étaient beaux. Donc, il faut garder ça.
Alors, du coup, j'ai demandé à Juju, donc, toi, ton avis un petit peu sur ce conseil final.
Ben, ouais, Jade, on a un peu parlé. Moi, je voulais surtout revenir sur le fait que les deux finalistes, enfin, c'est mon sentiment, j'ai vraiment eu l'impression que les deux finalistes avaient été vraiment éclipsés par les héros, en fait. Le conseil final, il s'est surtout déroulé autour des arrivées d'abord de Moussa, puis de Claude, et on est revenu sur le collier non joué par Théoura. Et la séquence avec juste les deux finalistes qui arrivent face au jury, il y a eu limite deux questions, c'est tout. Quelques mots de Moussa que j'ai trouvé d'ailleurs très juste et très humain à Inès, disant t'as volé, t'as rien volé à personne, sois fier de toi. J'ai trouvé ça super. Mais à part ça, et oui, deux petits discours à la fin. Mais la séquence, elle a duré, je sais pas, 7 minutes.
Elle a duré 5 minutes. J'ai compté, elle a duré 5 minutes. Exactement 5 minutes.
C'est ça. 5 minutes. Donc c'est ça qui m'a vachement frustré. Et je voulais poser la question à Maud, parce que c'est peut-être aussi enfin, c'est sûrement un choix de la production. Mais combien de temps dure vraiment le conseil final? Et est-ce que tous les jurés posent des questions aux finalistes? Ou alors pas vraiment?
En termes de questions, c'est vrai. Bon, un conseil en général, moi, ça me semblait 2 heures, mais il paraît que c'était 1 heure. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas trop bien assis, qu'on est crevé et qu'on n'a pas très chaud. Mais quand c'était la finale, ça dure plus longtemps, évidemment, que ce que vous voyez à l'écran. Donc, effectivement, on va choisir de prendre ce qui semble, enfin, les scénaristes ou les gens qui vont donner un fil conducteur à l'émission, choisir de se renoncer. Donc, ils ne montreront pas tout. Mais par contre, c'est vrai que de nouveau ici, c'était un koh-lanta des héros. Peut-être ont-ils voulu mettre effectivement, appuyer sur les erreurs ou les forces ou les déceptions des uns ou des autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous en trouvant peut-être que c'était un petit peu léger la place qu'on a donnée aux héros. Peut-être maintenant, enfin aux héros, pardon, aux finalistes. Maintenant, il est possible qu'il y ait eu moins de questions. Ça restera de nouveau dans 7 heures. Qu'est-ce qui s'est dit durant 7 heures? Voilà, c'est possible qu'il ait moins parlé, c'est possible que les choses se soient faites comme on l'a vu à l'écran, mais autre chose est possible aussi. Donc je ne peux pas juger parce que, de nouveau, on sait que beaucoup de choses ne sont pas montrées. Tout ça.
Jules, du coup?
Voilà, pareil pour le FTC, il était un peu particulier puisque j'ai eu le sentiment que les questions à Claude et à Moussa de la part d'Amad... la remarque sur Denis qui pour une fois hein, justement était pas allait pas dans le sens Théoura qui explique qu'il a utilisé le collier de Charlotte et pas le sien, que Denis qui remet un peu Théoura à sa place en disant bon, donc le collier de Charlotte il était collégial et il est quand même un peu foutu de sa gueule hein, il faut bien le dire, et donc on a passé plus de temps donc sur ce FTC sur les héros qui n'étaient pas en finale que sur Inès et Nawel. J'ai trouvé ça quasiment plus rapide que tous les passages où on a eu des confrontations avec les héros qui n'avaient rien à gagner, donc on n'a pas trop bien compris pourquoi. Et aussi l'émission finale qui suit le conseil où on n'attend qu'une seule chose, c'est de savoir qui va gagner. Pareil, on était encore sur les héros, c'est les meilleurs, ils sont vraiment incroyables, et tout ça. Et du coup, j'ai trouvé vraiment, et puis les intervenants qui ont été invités, pas trop pourquoi, c'était la première fois qu'on avait ce type d'intervenant sur une émission finale. J'ai trouvé ça beaucoup trop long, et vraiment, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises, mais... vraiment j'ai failli m'endormir. Et ça, faudrait peut-être réfléchir, repenser le format. Parce que là, vraiment, c'était beaucoup trop long d'attendre d'avoir qui gagnait entre Inès et Noël.
Je peux juste dire une chose.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais. C'est vrai, là, j'ai envie juste de souligner, j'ai fait une petite erreur, vous m'avez posé la question sur le temps du conseil, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous. Normalement, le conseil final parle de ceux qui ont fait la finale. De ceux qui sont arrivés. Et là, on est à côté de la plaque, tout simplement. Voilà. Ça, j'avais envie de le dire.
Je suis entièrement d'accord avec toi, je pense que de beaucoup de gens ici. Et je voulais rebondir sur quelque chose qu'a dit Freeze dans le chat. Il dit qu'il a halluciné sur les justifications des votes parce que les trois quarts partent uniquement des épreuves. Il n'y a personne qui mentionne le social de Nawel ou son courage. Donc, c'est vraiment une saison conditionnée par la performance sportive. Et c'est vraiment ce qu'on est beaucoup reproché, justement, à cette saison. C'est le sport, le sport, le sport. Et on ne voit rien d'autre. Et voir ça d'une autre chose, c'est une preuve de faiblesse. Et ça, c'est pour ça que je trouve personnellement que cette saison et cette finale, justement, est une énorme déception.
Alors, faut pas oublier que dans Koh-Lanta, l'aspect le plus facile à monter, l'aspect le plus facile à montrer, c'est le sport. Parce que l'émission est quand même rythmée par 2 épreuves. Par épisode, enfin normalement, pas cette saison à cause des coupures. Et du coup, c'est très facile pour le spectateur de se concentrer sur ces épreuves-là, surtout quand la voix off insiste sur les 17 victoires de Claude, les performances de Nawel, le fait qu'Inès se dépasse sur les épreuves, etc. Donc c'est très facile pour le spectateur lambda, j'ai envie de dire, de se dire « Ah oui, cette personne est forte aux épreuves, cette personne est forte à Koh-Lanta. » Quand on voit Moussa, on se dit « Ah, Moussa, c'est un héros, mais il n'a gagné aucune épreuve. » Alors que Moussa, il s'est quand même très bien intégré chez les jaunes. Et voilà, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on va moins repérer en regardant l'émission. Et oui, Sarah qui fait le feu, la première femme à faire du feu par friction. ouais, c'est les choses qui sont hyper faciles à montrer, à catégoriser. Donc, encore une fois, il y a du travail à faire pour comprendre toute la complexité et la difficulté de Koh-Lanta.
Mais on se disait, mon Dieu, mais on ne voit pas l'ambiance qu'il y a entre les aventuriers, etc. Mais pensez-vous qu'on aurait beaucoup d'auditeurs qui regarderaient des gens danser autour d'un feu de camp? Pensez-vous qu'on aurait beaucoup d'auditeurs qui regarderaient simplement des beaux gestes d'amitié? Pensez-vous que dans notre société, on cherche encore à avoir des bonnes nouvelles? Je pense qu'il faudrait qu'on évolue un peu, mais ce qu'on aime dans notre société, ce qui est sexy, c'est quand on voit une stratégie un peu macabre ou un peu vache ou un peu piquante, quand on voit des gens qui en bavent, parce qu'effectivement, c'est plus sexy de voir un effort physique que de comprendre effectivement une souffrance mentale ou c'est vrai, quand on voit quelqu'un pleurer, là, ça va marquer parce qu'on va être avec lui. Mais donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on est en télévision, qu'il faut essayer d'avoir un maximum d'auditeurs aussi, et que je pense que ce qu'on a aimé dans cette saison, c'est qu'il y a eu des clashs. Peut-être que d'ailleurs dans d'autres saisons qu'il y a eu moins de succès, peut-être étions-nous trop boy scout, donc je ne sais pas, il faut voir aussi, il n'y a rien à faire. Adventure Line Production doit tâcher d'avoir un maximum de téléspectateurs, donc il faut essayer que l'histoire soit la plus sexy possible pour un maximum, le plus grand nombre, et sans doute qu'il est beaucoup plus difficile de rendre ça sexy en termes d'ambiance, de s'entendre bien autour de feu de camp. Ça doit être très difficile, mais pas impossible.
Moi aussi, donc, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais sur ALP. Après, sachant qu'j'ai cru comprendre que leur volonté pour les années à venir, c'était de procurer deux saisons par an à TF1. Après, est-ce qu'ils ne peuvent pas un peu couper la poire en deux et voir si ce qui marche bien et ce qui ne marche pas, voir peut-être que leur stratégie, ça va être justement, leur stratégie marketing, hein, j'entends, peut-être d'avoir des saisons plutôt orientées mérite sportif, où on va faire revenir des anciens, ou alors on va caster plutôt même des sportifs célèbres, pourquoi pas, comme ça a été déjà fait pour...
Non, pour pitié, franchement, faudrait pas qu'ils nous refassent une saison comme le choc des héros, parce que c'était vraiment la pire saison, le fond du caniveau, quoi. Putain.
Et donc alterner des saisons mérite sportif avec des saisons où justement on va plutôt prendre des gens comme Amad et Régis ou Cindy ou Cyril, des stratégies, des saisons orientées stratégie pour quand même les fans qui aiment ça, et il y en a, et nous en faisons partie. Donc, peut-être couper la poire en deux et fournir deux genres de saisons. C'est aussi une stratégie qui pourrait avoir le futur. Espérons-le.
Espérons-le. Du coup, si vous avez quelque chose à dire, moi, une dernière chose à dire aussi, moi, j'ai trouvé que cette finale, le fait qu'il l'étire, bon, il y a toujours des contraintes dues au CSA, aux coupures pub et tout, mais j'ai trouvé vraiment que cet après-finale, c'était limite du mépris du spectateur, tellement c'était creux, tellement c'était vide, et tellement j'ai l'impression qu'en fait pour les afters comme ça, on n'a pas évolué depuis quand j'étais ado et que je regardais parfois la ferme célébrité. Il y a le bêtisier pourri, il y a les personnalités dont on se fout qui vont dire ce qu'elles pensent et tout. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que TF1 n'a pas évolué là-dessus et est incapable de proposer du contenu un tant soit peu intéressant. Et enfin, je sais, ou alors, où est-ce qu'ils s'en foutent, ou alors est-ce qu'ils considèrent que ça marche un peu sur leur public, ou enfin, je sais pas, mais c'est vraiment senti que vraiment qu'ils sont pas foulés, qu'ils étiraient vraiment le plus possible, et que vu toutes les plaintes, je pense que ça n'a pas du tout bien marché, quoi. Voilà, donc ça, si
c'est bon... ouais. ça meuble jusqu'au résultat final. Je suis même pas certaine que la totalité des gens qui étaient devant leur écran au début, quand tous les aventuriers arrivent et qu'il y a leur présentation, je ne sais même pas si tout le monde a regardé jusqu'à la fin. C'est vraiment une question que je me pose. C'était vraiment, c'était compliqué, quoi.
Peut-être juste une question quand même par rapport à cette réunion, vu que Maud en a vécu une et qu'elle a gagné. Comment on se sent au moment du dépouillement? Bon, j'imagine que même si tu le sais, tu ne nous le diras pas forcément, mais est-ce que vous savez le résultat avant? J'imagine que non. Mais comment on se sent au moment où Denis dévoile le dernier bulletin, le bulletin décisif?
Ah, ça, c'est surtout quand on est à, je crois, 6 voix contre 7 ou 7 contre 6 ou quelque chose comme ça. Là, c'est la délivrance et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, bon, voilà, je me souviens que évidemment, je vais chercher Cyril tout de suite parce que cette victoire, je la lui dois. Je n'aurais pas été si loin sans lui. C'est la victoire d'un binôme. Mais bon, on va dire ce qui est. C'est quand même moi qui ai des 100 000 euros. Donc, voilà. bon, voilà. Non, mais il faut être honnête. Hein, et que...
Effectivement, en fait, ce qui va se passer, dès que j'ai remercié Cyril, on a très, très envie, évidemment, de voir les siens. Et là, donc, je leur fais signe parce que j'ai gagné, mais en fait, je ne les vois pas du tout puisqu'on a les spots en pleine figure. Et je vais dire, donc, dans mon souvenir, c'est ce grand bonheur de pouvoir partager avec Cyril, mais aussi cette très grande frustration puisque dans notre Koh-Lanta, le plateau ne pouvait pas supporter des gens extérieurs à nous. Donc, je n'ai pas pu les serrer dans mes bras. Ça fait tout con ce que je vous dis, mais donc, je ne les verrai pas être émus. Je ne verrai pas mes amis en train de danser, d'être super contents. Quand ils viendront me féliciter, c'est quand les spots vont s'éteindre, que la salle va se rallumer, entre guillemets, et là, je pourrai aller vers eux. Et puis, il faut savoir que les gagnants, ils sont appelés, c'est normal, on doit répondre aux interviews, etc., alors que les autres vont au cocktail. Et donc, ça m'a paru très, très long. Et en fait, quand je suis arrivée au cocktail et que j'ai enfin vu ma famille, mes amis, etc., ben, c'était retombé. Donc, je n'ai pas pu vraiment partager avec ceux que j'avais emmenés. Ça, égoïstement, en fait, j'ai vu comment ça se passait à la télévision. Et encore, je n'ai pas vu tout le monde parce que c'est 2 secondes qu'on filme les gens de la famille. Et donc ça, c'est peut-être une frustration. Surtout quand je suis arrivée au cocktail, j'ai juste eu un verre de champagne et puis c'était terminé. Zut pour moi. Mais bon, sinon, c'est un bon souvenir. Mais voilà, là, c'est ce fait que les gens ne puissent pas venir sur la scène avec nous et partager notre bonheur à ce moment-là, ça m'a manqué. C'est la seule chose. Sinon, c'est une aventure merveilleuse.
C'est joliment dit. Du coup...
Vous êtes endormi,
non,
en fait.
C'est vrai.
Non, on était suspendus à télé.
Ah non, pas du tout. Voilà, non, c'est l'éloquence. C'est que Cyril disait que tu parlais beaucoup, mais tu parles beaucoup, mais bien. Donc, bien sûr, forcément, on écoute tout.
Mais en fait, parce qu'il ne voulait pas m'écouter, il était jaloux. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, mais bon, il fallait quand même que je laisse une certaine place, que je savais que j'allais gagner, donc il fallait quand même qu'on le voit un peu plus à l'écran.
Genre, à lui le panache, à toi la victoire. Enfin, quoi que mes citoyens avaient du panache aussi.
Voilà, exactement. Exactement. Moi, j'avais. Oui, non, merci, ça va, j'ai compris. Moi, c'est moi qui ai les 100 000 euros, donc je m'en fous.
Ah, mais écoute...
Je l'aime quand même un peu, il ne faut pas qu'il me morde.
Non, mais sinon, vous vous chambrez comme ça et tout, c'est pas mal de voir ça. Du coup.
Bah, on était une super équipe, même les 21, on a une vraiment une super équipe. Il y a 21 copains, quoi, vraiment, des grands. Même s'il y en a qui me trouvent que je suis chiante.
Mais du coup, merci à vous tous pour cet avant-dernier podcast de la saison, puisque la semaine prochaine, on va faire un récap un peu de la saison avec le plus possible d'intervenants. Donc, je vais remercier déjà Plantcaster qui m'a laissé la place, qui a eu une petite obligation familiale aujourd'hui, donc c'est moi qui ai animé.
Merci à toi d'ailleurs de m'avoir remplacé au pied levé. Tu as été très compétent de ce que j'ai entendu, donc bravo à toi.
Bah, merci beaucoup.
Bah, je t'en prie.
Je vais remercier donc Wilson Santos, vous avez vu qu'on a un nouveau générique, et c'est Wilson Santos qui est un auditeur et qui a le podcast Bref de Légende, qui est un podcast sur le sport, c'est un Belge lui aussi d'ailleurs, donc on le remercie grandement pour ce nouveau générique, donc nouveau générique, nouveau logo, c'est un peu le temps des grandes métamorphoses ADF, et surtout là ce soir je voulais remercier Jules, Juju et Jade.
Merci à toi
Damien.
Et merci
avec à
vous.
Merci à vous.
Merci à vous
aussi.
Et Maud, je t'avais pas cité encore. Et merci infiniment à toi, Maud, d'avoir accepté notre invitation. Tu as été une excellente intervenante.
Mais j'attends juste le chèque. Hein. J'attends
voilà,
juste
merci
le chèque.
Parce que tu
as. Ah bon, voilà, c'est bien ce que j'ai. Je suis un peu déçu. Je pensais que c'était à zéro de plus, mais voilà.
Bah écoute, tu nous donneras ton adresse, on t'enverra le chèque, il n'y a pas de souci.
Comme convenu.
Alors, on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 14h pour le débrief de la saison. Ensuite, il y aura une petite pause et on vous prépare déjà quelques surprises pour l'entre-deux saisons, puisque la prochaine saison, normalement, devrait avoir lieu en septembre. C'était Damien. Salut à tous.
Salut.
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 Merci.
Merci, Damien. À plus.